travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Il n'y a pas un jour sans manifestation ou protestation. Aujourd'hui, ce sont les instituteurs et les parents d'élèves qui manifestent contre l'application des nouveaux rythmes scolaires. Avant-hier, c'était les camionneurs contre l'écotaxe et centres équestres aussi contre l'augmentation de la TVA. Eh bien, il faut que le camp des travailleurs se manifeste, lui aussi. Les travailleurs ont été les premières victimes de la crise. Beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup d'autres ont vu leur salaire amputé et leurs conditions de travail s'aggraver. Et cerise sur le gâteau, il y a eu toutes ces augmentations d'impôts qui ont frappé y compris les salariés et les retraités les plus modestes. Parce que oui, il y a bien un matraquage fiscal, mais il ne concerne pas les plus riches, il concerne les classes populaires. Comme toujours, ce sont les plus riches que l'on entend le plus. Prenez les clubs de foot qui ont osé se plaindre d'avoir à payer la fameuse taxe à 75% sur les salaires de plus d'un million d'euros, alors qu'ils sont riches à millions. Et le grand patronat, les plus fortunés, se plaignent toujours pour un oui, pour un non, alors même qu'ils pleurent la bouche pleine. Et on peut dire qu'ils sont particulièrement ingrats vis-à-vis du gouvernement. Parce que le gouvernement Hollande-Hérault n'a pas cessé de leur faire cadeau sur cadeau. Comme sous Sarkozy, tous ces messieurs ont eu droit aux exonérations, aux aides diverses. Et Hollande leur a même fait ce fameux cadeau du crédit d'impôt compétitivité de 20 milliards par an, auquel même Sarkozy n'avait pas pensé. Alors, entendre tous ces gens-là, riches à millions, protester contre l'impôt, c'est vraiment le monde à l'envers. Non, le véritable matraquage fiscal, ce sont toutes ces mesures qui ont été décidées en douce et qui font que d'un seul coup, près d'un million de salariés et de retraités modestes qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu sont devenus imposables. C'est cette accumulation de petites réformes qui font qu'un salarié ou un retraité se retrouve à devoir payer 100, 200, 300 euros de plus alors que leur revenu n'a pas changé. Et combien dans les classes populaires se demandent encore aujourd'hui comment ils vont faire pour payer cet impôt et comment ils vont faire pour joindre les deux bouts. En Bretagne, c'est l'écotaxe qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on peut le comprendre. Oui, l'écotaxe est une taxe injuste. Cette taxe, comme la plupart des taxes, a été conçue sans faire la différence entre les petits, les gros. Tout le monde devait payer, y compris le petit agriculteur, le pêcheur, qui a parfois du mal à se verser un SMIC. Si le gouvernement avait voulu faire de l'écotaxe une taxe juste, il aurait pu, en la faisant payer au gros du transport, à ceux de l'agroalimentaire, à la grande distribution, sur leur profit. Mais ça, le gouvernement, prétendument socialiste, en est incapable. Pendant la campagne, Hollande avait promis une révolution fiscale. Eh bien, il n'est capable que de prendre dans la poche des pauvres pour donner aux plus riches. L'augmentation de la TVA que l'on va subir au 1er janvier 2014 en est le symbole. La TVA est l'impôt le plus injuste qui soit. C'est d'abord l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Et surtout, c'est un impôt qui frappe indistinctement au même taux les millionnaires, les chômeurs ou les SDF. Et pourquoi le gouvernement veut-il augmenter la TVA? Eh bien, comme il le dit lui-même, pour pouvoir payer ce cadeau du crédit d'impôt compétitivité fait au patronat. Donc le gouvernement va prendre 7 milliards dans la poche de nous tous, une augmentation qui équivaudra en moyenne à 100 euros par personne et par an. Tout ça pour donner ces 20 milliards au grand patronat. Eh bien, qu'est-ce que c'est, si ce n'est prendre dans la poche des pauvres pour donner aux riches? Et il faudrait attendre de ce gouvernement une politique fiscale juste. Le faire croire, c'est une tromperie grossière. Du point de vue des travailleurs, la seule politique fiscale juste serait la suppression de tous ces impôts indirects, la suppression de toutes ces taxes qui vont de la TVA à la taxe sur les carburants, en passant par les taxes sur les boissons, sur la télévision. La justice fiscale, ce serait aussi que l'impôt sur le revenu ne s'applique pas sur le salaire des travailleurs, ni sur leur pension de retraite, et que cet impôt sur le revenu ne s'applique réellement qu'au revenu, c'est-à-dire à l'argent qui est tiré de l'exploitation par le biais du capital. La seule politique fiscale juste, ce serait de faire payer les capitalistes sur les profits tirés de l'exploitation, mais pas les travailleurs. Pour des millions d'ouvriers. Ce salaire ne représente pas l'intégralité de la richesse qui est produite par l'ouvrier. Il est amputé, déjà, de la plus-value qui va dans la poche des patrons. Les exploités payent donc déjà, bien malgré eux, un tribut à tout le système. Et bien pourquoi doivent-ils payer une seconde fois en payant des impôts? Les professeurs de morale républicaine prétendent que l'impôt est l'acte citoyen par excellence, que c'est le prix de nos services publics et que donc tout le monde doit contribuer. Mais les services publics ont bon dos. Les 3 milliards qui sont prévus pour acheter des rafales à Dassault, c'est des services publics. Les centaines de millions qui sont dépensés pour les guerres de l'armée française au Mali, en Centrafrique, là, maintenant, n'ont rien à voir non plus avec les services publics. Comme les dizaines de milliards d'aides qui sont versées aux banques et aux grands groupes capitalistes pour traverser la crise n'étaient pas des dépenses publiques. C'est de l'argent qui est allé grossir les fortunes privées, des actionnaires et de la bourgeoisie. En quoi ces milliards ont-ils été utiles à toute la société? Ont-ils empêché les licenciements? Ont-ils freiné la montée explosive du chômage? Ont-ils permis de secourir les plus petites entreprises, les petits commerçants, les artisans, qui sont bien mal en point, non plus? Eh bien, si ces milliards avaient été jetés par les fenêtres, ils auraient sans doute été plus utiles à toute la population. Et que chaque année, l'État verse aux banquiers 56 milliards pour le seul remboursement des intérêts de la dette, eh bien, résume à lui tout seul ce qu'est l'impôt, c'est-à-dire un racket des classes populaires au profit des financiers. La priorité des gouvernements, ce n'est pas les hôpitaux, l'enseignement, les transports. C'est d'entretenir un État, une armée au service de la bourgeoisie. C'est servir de vache à lait pour les capitalistes de la finance et de l'industrie. Eh bien, que les gouvernements se débrouillent pour trouver l'argent auprès de ceux qui en ont, auprès des capitalistes. Mais les travailleurs, eux, n'ont pas à se laisser faire les poches. Les travailleurs et imposer que ce soit les possesseurs de capitaux, les rentiers qui les payent, ne serait que justice. Mais ce ne serait qu'un petit bout de justice. Car que peut-il y avoir d'équitable dans ce système capitaliste basé sur l'exploitation? Dans un système où l'enrichissement de quelques-uns est basé sur l'appauvrissement du plus grand nombre. La justice élémentaire demanderait que chacun puisse gagner sa vie en travaillant, que chacun ait un salaire. La justice imposerait que soit mis fin à l'exploitation et au vol du fruit du travail des classes productives. Alors, la véritable révolution fiscale, eh bien, ce serait l'expropriation des exploiteurs et la gestion par les travailleurs des richesses qui sont créées collectivement. Et le principal combat pour les travailleurs, c'est le combat contre les licenciements. Et là encore, il ne faut pas compter sur le gouvernement. Il faut que les travailleurs ne comptent que sur eux-mêmes et sur leur lutte. Mais se mobiliser, manifester, mettre un bonnet rouge, vert ou je ne sais de quelle couleur, ne suffira pas. Les travailleurs ne pourront garantir leur emploi et leur salaire qu'à condition qu'ils se battent pour leurs revendications. Certes, il n'y a pas un jour sans que les travailleurs se battent. Mais ils se battent usine par usine, entreprise par entreprise. Et cela ne suffit pas pour peser politiquement. Pour peser politiquement, il faut que les travailleurs fassent de toutes ces luttes parcellaires un seul et même combat contre les licenciements. Et personne ne le fera à leur place. Et sûrement pas le patronat, quand bien même il se pose toujours en défenseur de l'emploi. Tous les patrons qui veulent des aides s'abritent toujours derrière la sauvegarde de l'emploi. Mais depuis le début de la crise, les banquiers, comme tous ces grands groupes, ont encaissé des milliards de l'État. Et ils ont continué à licencier comme si de rien n'était. L'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire, sont des exigences communes à tous les travailleurs. Comment ne pas se sentir menacé quand le chômage frappe indistinctement les anciens comme les plus jeunes, les travailleurs qualifiés comme ceux qui ne le sont pas, les salariés des petites entreprises comme des grandes? Comment ne pas voir que le licenciement est aussi une arme utilisée par le patronat pour faire pression sur les travailleurs et pour aggraver l'exploitation de tous? La fermeture d'une usine est un drame, bien sûr, pour les ouvriers qui y travaillent, mais c'en est un aussi pour les buralistes, les coiffeurs, les restaurateurs, les garagistes qui voient leur commerce déserté. L'interdiction des licenciements est une mesure de salut public. Le combat des travailleurs contre les licenciements n'est pas un combat catégoriel. C'est se battre pour la jeunesse. C'est se battre pour que la classe productive ne soit pas poussée vers la déchéance. Et c'est sauver ce que la société a de plus vital. Les ouvriers et les travailleurs indépendants qui ne vivent que de leur travail ont des intérêts communs. Et ils peuvent se retrouver dans bien des combats. Mais ils doivent récuser l'idée qu'ils ont quelque intérêt de commun avec le grand patronat. Et tout le discours que l'on nous sert aujourd'hui autour de la Bretagne et de sa particularité est nuisible, à double titre. D'abord parce que cela laisse entendre qu'entre exploités et exploiteurs bretons, il y a des intérêts communs. Et ensuite, parce que cela coupe les travailleurs bretons des autres travailleurs du pays, alors qu'ils ont à mener ensemble le combat contre les licenciements. Et les drapeaux bretons ne sont pas là que pour le folklore. Ils participent aussi à la tromperie. Eh bien, il ne faut pas que les travailleurs tombent dans le piège. Les travailleurs ont mille fois raison de manifester leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement. Mais leur intérêt est de le faire sur la base de leurs revendications et contre le grand patronat exploiteur. Il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation et contre tous ces cadeaux qui sont faits au patronat et qui démolissent la sécurité sociale, les retraites, les services publics et qui se traduisent pour nous tous en impôts. Les travailleurs doivent lever leur propre drapeau, le drapeau des exploités. Populariser autour de nous, dans la classe ouvrière, un programme de lutte pour les travailleurs. Eh bien, aujourd'hui, on en mesure toute l'urgence. Pour que les travailleurs qui veulent se battre, pour que les travailleurs mobilisés ne se laissent pas entrer dans de faux combats, à la remorque des intérêts patronaux, eh bien, il faut relayer dès aujourd'hui ces revendications parmi les travailleurs. Il faut en discuter autour de nous et il faut les faire partager. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements, l'interdiction des licenciements et le partage du travail sans diminution de salaire de façon à résorber le chômage. De la même façon que tout le monde trouve légitime et naturel qu'il y ait une trêve hivernale, la fameuse interdiction qui est faite aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver. Eh bien, il faut que nos camarades de travail trouvent aussi légitime et naturel qu'on interdise au patronat de licencier. Parce qu'aujourd'hui, perdre son travail, c'est perdre ce que l'on a de plus nécessaire. Et pour résorber le chômage, eh bien, il faut qu'il y ait des embauches. Partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé, il faut des embauches en CDI, de vrais emplois, avec des salaires pleins et entiers. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux, où tous les deux ans, un travailleur en remplace un autre qui est mis au chômage. Oui, il faut arrêter de concentrer tout le travail sur des salariés de moins en moins nombreux, mais au contraire, imposer qu'ils soient répartis avec un salaire plein et entier, parce qu'un emploi et son salaire qui va avec est la seule richesse des travailleurs. Le revendiquer, c'est un droit légitime. Les patrons font de leur profit la priorité. Eh bien, les travailleurs doivent faire de la lutte pour leur emploi et pour leur salaire leur priorité. Et les grands groupes ont de quoi payer ces salaires. Et à défaut, qu'ils puisent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires. Les difficultés éventuelles, y compris celles des plus petites entreprises, doivent être palliées par les plus riches, par les plus fortunés, par les banques, par celles-là même que l'État a aidées pour traverser la crise. Eh bien, il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Mais les travailleurs, eux, n'ont pas à servir d'amortisseurs. Pour que chacun vive aussi dignement, eh bien, il faut relever le SMIC à 1700 euros net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances. Et ce, pour tous les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux. Si aujourd'hui les salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse. C'est parce qu'ils touchent justement des salaires de misère. Le travail du dimanche, comme les heures supplémentaires, ou le travail de nuit, n'ont rien à voir avec du volontariat. C'est pour les travailleurs sous-payés une situation imposée et forcée. Toutes ces questions n'en cachent qu'une seule, ne cachent qu'un seul vrai problème, celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, c'est encore une fois le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires, leur indexation automatique sur l'inflation, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ce sont là des revendications élémentaires. Mais c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours. Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires et embaucher est impossible. Le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. Parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qu'ils expliquent qu'ils ne peuvent plus payer, les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Et les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent tout à fait normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront ensuite dilapidés dans des services de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Oui, le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Et il serait tout simplement normal que les travailleurs concernés par des licenciements ou confrontés à des attaques aient accès à toute la comptabilité, puissent connaître l'état réel des entreprises, ses bénéfices réels, ses dettes, ses participations à d'autres entreprises, l'utilisation des dividendes présents, passés, les provisions aussi qui sont mises de côté en retraite chapeau ou autres petits bonus pour les grands patrons par exemple. Ce contrôle ne pourrait se faire que dans une période de remontée des luttes et collectivement. C'est ainsi que les travailleurs pourraient l'imposer, parce qu'ils reprendraient confiance en eux. Et ils pourraient alors prendre l'habitude de tout dire, de tout mettre sur la place publique. Et on pourrait alors tout savoir sur cette comptabilité, sur les prix, sur les magouilles des petits bourgeois et des grands. Et on pourrait tout savoir aussi sur ces fameuses charges dont tous les patrons se plaignent en disant qu'elles pèsent trop lourdement. Mais quelles sont ces charges? Combien payent-ils par exemple aux banquiers? Combien payent-ils pour louer leurs locaux aux spéculateurs immobiliers? Combien paye-t-il aux assurances? Et quelle marge aussi le grand patron laisse aux petits sous-traitants? Et dans cette transparence générale, eh bien on verrait aussi combien rapporte un salarié. Et on mesurerait alors toute l'escroquerie qu'il y a à parler de coût du travail. Parce que le coût du travail, ça n'existe pas. Le travail ne coûte pas aux patrons. Il leur rapporte. Le moindre centime que la bourgeoisie gagne lui vient de l'exploitation du travail. Les millions d'euros que dépensent les riches pour s'assurer leur train de vie de parasite est extrait de la peine et de la sueur des travailleurs. Alors voilà tout ce que dévoilerait le contrôle des travailleurs. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat. Pour maintenir leur domination, eh bien il faut que la levée de ce secret fasse partie du programme des travailleurs. D'existence, les travailleurs doivent se battre pour leurs intérêts. Pour le programme que je viens de décrire, l'interdiction des licenciements, l'indexation des salaires sur les prix et le contrôle des comptes de la bourgeoisie. C'est en combattant les capitalistes de la distribution, de l'industrie et de la finance que les travailleurs entraîneront derrière eux les autres catégories sociales qui vivent de leur travail sans exploiter personne. Mais ce sont bien les ouvriers, les exploités qui doivent prendre la tête de ce combat, parce qu'ils sont les seuls à n'avoir aucun intérêt à cette société d'exploitation. Les seuls à pouvoir contester la dictature de la bourgeoisie et de ce système capitaliste qui ruine toutes les classes populaires et qui pèse aussi sur toute la société. Et encore une fois, les travailleurs ne pourront le faire que s'ils ont leur propre programme, leur propre politique indépendante, leur propre parti, et une profonde conscience de leurs intérêts. Les responsables de la bourgeoisie et leurs larbins nous serinent à longueur de journée leurs solutions. Un jour, ils nous parlent d'innovation, le lendemain, c'est le remboursement de la dette, ensuite, ils nous parlent de protectionnisme ou de sortie de l'euro. Eh bien, les travailleurs doivent opposer à toutes ces politiques qui répondent aux problèmes de la bourgeoisie leur propre politique, leurs programmes qui répondent à leurs problèmes. Revenir à ce programme de lutte, le populariser contre tous les mensonges de la bourgeoisie et affirmer que la classe ouvrière doit le grandir en toute indépendance, doit être pour nous une boussole. C'est aussi la meilleure manière pour ne pas tomber dans un autre piège, le piège de la propagande sur la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de cette compétitivité devait être le seul et l'unique objectif de toutes les politiques publiques. Depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes s'y sont convertis, et même certains syndicalistes s'y sont mis. Mais pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, le travail à la tâche, les salaires de misère. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Celui qui revendique un emploi en CDI, la retraite pleine et entière à 60 ans, avec 37,5 annuités de cotisation, celui qui revendique un salaire digne de ce nom, est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. C'est-à-dire que ce qui existait il y a de cela que 20 ans est devenu aujourd'hui une folie utopique. Eh bien voilà le résultat de la course à la compétitivité. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les salariés dans la guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Mais les travailleurs n'ont aucune raison de marcher, comme ils n'ont aucune raison d'être attaché à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie qui est basée sur leur propre exploitation et basée sur leur appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron sera arraché au détriment d'autres travailleurs? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires son patron réalisera. Non, les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de la propagande sur la compétitivité. Ils doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière, c'est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Si le système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à en vivre, eh bien il faut le renverser. Efficacement que s'ils ont conscience qu'ils doivent combattre et le grand patronat et le gouvernement. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Beaucoup, à droite comme à gauche, critiquent la politique du gouvernement en accusant Hollande d'indécision et de manque d'autorité. Mais prenez ArcelorMittal. Hollande a défendu Mittal. Il n'a pas reculé, il n'a pas manqué de caractère. Malgré la pression en faveur de la nationalisation du site de Florange, face à la fermeture de l'usine PSA de Maisouvois, il a défendu la famille Peugeot, il a tenu bon là-dessus. Il n'a pas reculé face aux ouvriers qui ont fait grève pendant 4 mois pour empêcher que l'usine ferme. Hollande a reculé sur les impôts pour les plus riches, pas sur ceux des plus modestes. Eh bien tout ça, c'est un cap politique, c'est une politique de classe. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes. Il a été formé, il a été sélectionné pour cela. On nous dit que nous sommes en démocratie et que la population choisit ses dirigeants avec les élections. Mais il y a toute une série de filtres qui présélectionnent le personnel politique en fonction de son dévouement au système. Pour être à la tête des grandes villes, des départements, des régions et au gouvernement, eh bien, il faut avoir montré patte blanche vis-à-vis des financiers, vis-à-vis des capitalistes. Il faut avoir fait preuve de sa loyauté. Et de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre Sarkozy et Hollande. Alors oui, gouverner pour les intérêts de la bourgeoisie, cela a amené Hollande à faire une politique anti-ouvrière. Cela l'a amené à faire le cadeau du crédit d'impôt compétitivité dont j'ai parlé. Cela l'a amené à mettre en place la loi sur la flexibilité, à attaquer les retraites et à augmenter les impôts jusqu'à cette TVA qui pèsera encore sur les plus modestes. Eh bien, il n'y a pas à s'en étonner. Oui, le gouvernement mène une politique anti-ouvrière et il est payé pour cela. Il y a une continuité de la politique entre Sarkozy et Hollande sur tous les plans. Prenez même la politique étrangère. Eh bien, bien malin, celui qui pourrait dire les différences entre la politique menée par Sarkozy et celle de Hollande. Sarkozy a eu sa guerre en Libye, Hollande a eu sa guerre au Mali, et de façon imminente, puisqu'ils ont eu le feu vert, vous le savez peut-être, de l'ONU, la France, l'armée française, va intervenir aussi en Centrafrique. Dans la plus pure tradition de la France-Afrique. Car si l'armée française joue aujourd'hui le rôle de gendarme de l'Afrique, cela n'a rien à voir avec la protection des populations. C'est uniquement pour préserver l'influence et les intérêts de la bourgeoisie française en Afrique. Eh bien, nous sommes opposés à cette nouvelle intervention en République centrafricaine, comme nous étions opposés à la guerre au Mali. La droite, eh bien il faut que les travailleurs le combattent comme si c'était un gouvernement de droite. Et les travailleurs réagiront tôt ou tard aux attaques. Mais pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, eh bien il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées l'idée communiste révolutionnaire que le mouvement ouvrier a porté pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales, celles de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable et anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas seulement à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste et de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ces idées et de ces valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers. De la trahison d'abord du Parti socialiste, puis plus tard du Parti communiste, qui se sont tous deux intégrés à la société bourgeoise et qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. Et à cela s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Et je parle des directions nationales des syndicats, pas bien sûr des militants syndicaux qui se battent comme ils le peuvent dans leur entreprise. Dans le meilleur des cas, ces confédérations syndicales font mine de s'opposer. Elles organisent des paroles d'honneur, mais sans réellement armer les travailleurs moralement, sans leur donner de perspective. Et au pire, eh bien, elles vont jusqu'à appuyer, justifier en tout cas, les attaques du gouvernement et du patronat, en allant même jusqu'à contresigner des mesures qui sont anti-ouvrières. Alors voilà comment tous ceux qui prétendent être du côté des travailleurs ont contribué à distiller au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées de la bourgeoisie. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne pour l'occasion, reprennent les idées de la bourgeoisie, reprennent tous ces préjugés que l'on nous répète à longueur de temps et qu'on nous distille à la télé, dans la presse, qui reprennent cette idée que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, il faut bien des riches et même que l'intérêt des exploités, c'est que les exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes qui étaient étrangères au mouvement ouvrier sont présentées comme des évidences aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est beaucoup question de la remontée des idées racistes dans la société. Comme à chaque crise, ce sont les pires préjugés qui remontent à la surface. Mais ils s'expriment d'autant plus que la caste politique les chevauche pour des raisons électoralistes. C'est bien sûr l'extrême droite qui en fait son fond de commerce. Mais la droite lui court derrière. Et quand Valls déclare droit dans ses bottes que les Roms ne peuvent pas s'intégrer, il faut donc les chasser, eh bien lui aussi, il fouille dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que 17 000 Roms est un problème insoluble dans un pays de 65 millions d'habitants, c'est vraiment abject. Et puisque l'immigration est revenue au centre du débat, je voudrais en dire aussi quelques mots. Je voudrais d'abord dire que la vie de beaucoup de travailleurs est celle de perpétuels nomades. Ici, en France, il s'agit le plus souvent de faire quelques dizaines de kilomètres pour changer de ville ou d'usine pour trouver du travail. Mais les travailleurs des pays pauvres, eux, sont forcés de faire des milliers de kilomètres, de changer de continent, de langue et d'abandonner toutes leurs attaches. Aujourd'hui, il paraît que de plus en plus de jeunes Français diplômés tentent une carrière à l'étranger, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Singapour. Personne ne leur conteste ce droit. Eh bien, il n'y a aucune raison d'en priver d'autres travailleurs. Quelle que soit sa nationalité, son origine ou ses papiers, tout travailleur doit être libre de circuler et de s'installer où il le souhaite. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx. Tant qu'il est vrai. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx, tant il est vrai que le sort que le capitalisme réserve aux prolétaires, c'est d'aller là où il y a du travail. Tant il est vrai que rien ne sera jamais donné, jamais assuré aux exploités, et pas même ce droit d'être exploités dans le pays où ils sont nés. C'est pourquoi le mouvement ouvrier conscient s'est toujours battu contre ceux qui voulaient opposer les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité ou de leur origine. Eh bien, la solidarité de classe et l'internationalisme doivent continuer de constituer les valeurs de la classe ouvrière. Le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuse et indispensable. Oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs. Une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent. Une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Il faut continuer à faire entendre cette voix comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes. Et pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir aux élections municipales et européennes entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste et sur le terrain de la bourgeoisie, pour qu'ils puissent faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, nous essaierons d'être le plus présent possible dans ces deux élections. Dans ces deux élections, nous ferons entendre la voix de ce courant du mouvement ouvrier qui considère que les travailleurs n'ont pas à choisir entre tous ceux qui ont pour perspective de perpétuer l'esclavage salarial, mais qu'il faut que dans ces élections, comme dans toute la vie politique, les exploités défendent leurs intérêts pour l'immédiat comme pour l'avenir de la société. Ces municipales, elles constituent la première possibilité électorale que nous aurons de rejeter la politique de Hollande et du Parti Socialiste. Ces élections sont locales, mais la signification qu'on donnera au vote aura un caractère national. Et c'est dans l'ordre des choses, parce que les problèmes qui se posent à la population en général et aux classes exploitées en particulier ne sont pas des problèmes locaux ou municipaux. Alors il faut que les travailleurs puissent rejeter le gouvernement d'un point de vue de classe, du point de vue des intérêts des travailleurs. Parce qu'il suffit de discuter autour de nous pour savoir que dans les milieux populaires, certains envisagent de voter pour le Front National pour exprimer justement leur rejet de la politique gouvernementale. Mais croire qu'il est possible de rejeter la politique anti-ouvrière du gouvernement et le cirque politicien en votant pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Le Front National, s'il parvenait au pouvoir, eh bien, il gouvernerait au profit de la bourgeoisie, comme les Sarkozy, les Hollande, comme ce fameux UMPS que le Front National dénonce. Mais il le ferait dans sa variante la plus autoritaire qui soit. Et le simple fait que le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés, c'est-à-dire une partie de la classe ouvrière, une partie de notre camp, une partie de nous-mêmes, fait de ce parti pour nous un ennemi mortel. Certains se disent que voter pour le Front National donnera un coup de pied dans la fourmilière. Mais si le vote Front National pèse, et il pèsera peut-être, eh bien il pèsera dans le sens contraire aux intérêts des travailleurs. Parce que le vote Front National sera interprété comme une critique du gouvernement, mais sur sa droite. Les votes des plus pauvres se mélangeront avec ceux des plus réactionnaires, avec tous ces petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA, les syndicats. Ils se mélangeront avec les nostalgiques des colonies, de l'OAS, avec tous les racistes. Voter Front National sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs. d'une politique plus dure contre les syndicats, plus dure contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Pour un travailleur, voter Front National, c'est tendre le fouet pour se faire battre. Bien sûr, il faut rejeter la politique du gouvernement, mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière, en mettant en avant les intérêts des travailleurs. Et en plus d'exprimer une colère contre le gouvernement, eh bien, il faut que les travailleurs affirment leur volonté de se défendre contre le grand patronat. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer sa colère contre les marionnettes. Il faut viser aussi ceux qui tirent les ficelles, la bourgeoisie, les financiers, les actionnaires. Il faut viser les licencieurs, les exploiteurs, tous ces parasites qui s'engraissent sur le travail de tous. Pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas lors des municipales et des européennes prochaines, eh bien il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer leur colère, mais pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre tous ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues, c'est-à-dire du Parti Socialiste jusqu'au Front National, en passant bien sûr par la droite et par le centre. Il s'agit de reprendre le combat mené par des générations de militants pour doter la classe ouvrière d'une conscience de classe, pour l'armer politiquement. Au regard de cette perspective immense, se présenter aux élections municipales ou aux européennes peut sembler bien mince. Mais c'est aussi à travers tous ces combats politiques, c'est aussi à travers, à l'occasion de toutes ces élections, que peut émerger et se forger un parti politique qui représente les intérêts des travailleurs, un véritable parti communiste. Alors, je fais appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui voudraient apporter leur pierre, que ce soit à l'occasion des prochaines élections ou au travers de nos différentes activités. Il y a de la place pour tous. Le mouvement ouvrier s'est développé à travers la collaboration de centaines, de milliers de femmes et d'hommes qui ont apporté leur contribution. Et bien aujourd'hui, chacun peut aider à sa façon et nous avons en tout cas besoin de tous.